Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1. À chaque week-end de Grand Prix, un débrief complet des dernières courses de cette saison 2024 qui s'annonce totalement dingue parce qu'il s'est passé encore énormément de choses au Mexique, entre Lando Norris et Max Verstappen, la lutte pour le titre de champion du monde, Verstappen qui termine 6e après avoir écopé de 20 secondes de pénalité dans un combat sauvage, agressif. Est-ce que la FIA a choisi son camp, les amis? Est-ce que Verstappen est définitivement blacklisté et les plus hautes instances de la Formule 1 ont choisi un nouveau champion du monde, Lando Norris? Bien évidemment, je grossis le trait, mais on va débattre des décisions prises par les commissaires lors de ce Grand Prix remporté par Carlos Sainz et Ferrari qui revient plus que jamais dans la lutte pour le championnat du monde des constructeurs. Il s'est passé vraiment énormément de choses, sans plus attendre. Les ingénieurs du paddock RMC autour du team principal, du team manager Jean-Luc Roy, toujours en forme entre notre Jean-Luc. Là, c'est la fin de saison, c'est les moments que tu préfères, Jean-Luc, ça.
Manière. Ah ben c'est évident. Salut Nico, bonjour à tous.
C'est là où t'es le meilleur. C'est quand les décisions comptent.
Je sais pas.
Tu montes en puissance à chaque podcast, ça se ressent. Tu seras accompagné par tes fidèles ingénieurs Louis Gerbier et Arnaud Valadon. Salut les gars.
Salut messieurs.
Salut les gars.
Arnaud Valadon qui nous a fait une imitation en off de Gunther Steiner, les gars. On va la faire dans le podcast, pas tout de suite.
On va la refaire.
Mais on va la faire tout à l'heure. Je la garde au chaud pour nos auditeurs là, qui au bout de 20 minutes de podcast, je te relance. Les gars, sans plus attendre, c'est parti pour le débrief de ce Grand Prix du Mexique. Grand Prix du Mexique, oui, c'est passé pas mal de choses, mais on reste un petit peu sur notre faim parce qu'il y a des décisions qui ont été prises qui ont peut-être un petit peu stoppé le spectacle, la lutte à laquelle on pouvait s'attendre sur la piste entre Norris et Verstappen. Je vais vous donner le classement de la course. Victoire de Carlos Sainz, sa 4e en Formule 1, avec 4 secondes 7 d'avance sur Lando Norris. Charles Leclerc sur Ferrari complète le podium. Ce sont les deux Mercedes d'Hamilton et Russell qui terminent 4e et 5e. Max Verstappen, après avoir écopé de 20 secondes de pénalité, arrive à aller chercher les points de la 6e place. Belle perf des As, hein. Kevin Magnussen 7e. Oscar Piastri, qui partait très très loin sur la grille, arrive à rentrer dans les points à la 8e place. Hülkenberg sur la 2e, As 9e. Et un petit point pour Alpine, 10e. Pierre Gasly, qui s'est qualifié en 8e position et qui, cette fois, par rapport à Austin, a réussi à les grappiller un petit point. La suite du classement, qu'est-ce qu'on a d'autre? Esteban Ocon est 13e. Je ne vous donne pas le classement des Sauber parce qu'on s'en fout. Sergio Perez, tiens, 17e. Et pour son 400e Grand Prix, Fernando Alonso a abandonné, ainsi qu'Alex Albon et Yuki Tsunoda. Voilà pour le classement de la course. Championnat des pilotes, bien évidemment, qui nous intéresse, puisque l'écart se resserre. On vous disait dans le warm-up du Grand Prix du Mexique que Norris devait reprendre 11,6 points en moyenne à Verstappen pour espérer être sacré champion du monde. Il l'a fait sur ce Grand Prix-là, puisqu'il a repris 15 points à Max Verstappen. 15 points, qu'est-ce que je dis?
Non,
en
10.
Tout cas, il est 10, pardon, ouais, 10. Il est désormais à 47 points de Max, ouais, donc il n'est pas encore vraiment dans les clous.
4 courses, ouais.
C'est ça, et il reste 4 courses encore. Charles Leclerc est désormais à 71 points de Max Verstappen et à 24 de Lando Norris. Donc il y a une vraie lutte entre ces trois pilotes, hein, parce qu'on peut englober Leclerc désormais dans cette lutte pour le titre. Et au classement des constructeurs, McLaren est devant, mais n'a désormais plus que 29 points d'avance sur Ferrari. Ferrari qui prend le meilleur sur Red Bull. Red Bull qui est désormais à 25 points de la Scuderia. Donc c'est un vrai week-end difficile pour Red Bull au niveau de ce classement des constructeurs. Bon, ce qui nous anime, les gars, et Jean-Luc, sur ce début de podcast, bien évidemment, c'est cette lutte entre Norris et Verstappen. Le pilote Red Bull, le Hollandais, qui prend deux pénalités de 10 secondes. Il faut que tu nous réexpliques, Jean-Luc, ce qui s'est passé. Pourquoi Verstappen a été sanctionné? On en a beaucoup parlé après Austin la semaine dernière. On se demandait s'il y avait une polémique suite à la pénalité de Norris aux États-Unis. Là, bien évidemment, ces deux sanctions font jaser, surtout que ce n'est pas le même nombre de secondes pour Verstappen que pour Norris il y a une semaine. Donc déjà, factuellement, explique-nous ce qui s'est passé, pourquoi Verstappen a été pénalisé, pour quelle manœuvre, et ce que toi tu penses de ça.
Oui, alors effectivement, c'est un gros morceau. On va commencer par essayer de résumer les faits. Donc à ce moment de la course, effectivement, c'est au 10e tour. Lando Norris essaie de récupérer la deuxième place au détriment de Verstappen. Nous sommes dans le virage numéro 4. Donc il l'attaque à l'extérieur. Il n'a pas le choix puisque Verstappen a fermé la trajectoire. Et effectivement, j'ai repassé moi aussi les images au ralenti. Oh, pas de beaucoup, de 5-10 cm, mais le museau de la McLaren au point de corde, puisque c'est ça la règle, est légèrement, devant celui de Verstappen. À ce moment-là, évidemment, Verstappen élargit la trajectoire, par choix ou par force, un peu les deux. En tout cas, il met la McLaren en dehors, qui est obligée de couper le virage, et qui de fait se retrouve devant Verstappen, donc en deuxième position. Seulement au virage d'après, au virage numéro 8, c'est une cassure à gauche extrêmement rapide. Eh ben, Verstappen, évidemment, comme toujours, qui ne laisse rien traîner, plonge à l'intérieur très violemment. Là, il n'y a pas la place pour les deux, clairement. Et donc, Norris est obligé d'élargir. Et du coup, Verstappen passe devant Norris à l'extérieur de ce virage numéro 8 et se retrouve deuxième. Et d'ailleurs, il va y rester un moment puisque par la suite, il ne pourra récupérer sa position qu'au moment où Verstappen va s'arrêter, c'est-à-dire au 27e tour. Donc voilà. L'histoire, c'est que on a scindé en deux les sanctions et c'est normal. Premièrement, dans le virage numéro 4, les commissaires ont considéré que Verstappen avait donc poussé volontairement Norris à l'extérieur. Bon, ce qu'on peut tout à fait comprendre, il n'y a pas de raison. Et là, on l'a mis 10 secondes, ce qui est la sanction « normale », entre guillemets. Et puis la deuxième, alors là, oui, moi je dis que c'est une véritable agression de Verstappen sur Norris. Là, c'est parfaitement clair. Il aurait dû, à minima, lui rendre sa position, ce qu'il n'a pas fait. Donc, il prend une deuxième sanction de 10 secondes et qu'il va exécuter, naturellement, lors de son arrêt au stand. Voilà, alors après, on peut argumenter, comme c'est fait un petit peu partout, sur le fait que s'il n'y avait pas eu ça, eh bien peut-être qu'il aurait été en mesure, Norris, d'aller attaquer en fin de course le leader. Bon, on ne saura jamais. Si on refait tous les Grands Prix comme ça, on va y passer la vie, quoi.
Oui.
Donc, mon avis, c'est ce que tu me demandais. Bah, les sanctions sont légitimes, sont normales. Faut pas faire référence au dernier Grand Prix. Indépendamment même l'une de l'autre, bah, je pense que oui, Verstappen est sanctionnable. Il ne s'est pas trop battu, lui, contre ça, d'ailleurs. Bon, évidemment que du côté d'Horner, on a pensé l'inverse. Mais lui, il dit, bon, ben, je les ai pris. De toute façon, maintenant, il faut faire avec. Et moi, je pense que c'est légitime. Voilà.
On va l'écouter derrière Max Verstappen au micro du diffuseur Canal+.
To be honest, I have no feelings.
The only thing is that 20 secondes au stand, c'est très long. Mais mon plus gros problème, c'est que nous n'avions aucun rythme. J'ai eu du mal avec les pneus. On était tout simplement pas dans la même ligue que McLaren et Ferrari aujourd'hui. La journaliste relance en lui demandant est-ce que ça a changé sa façon de conduire ces pénalités. Non, ça n'a rien changé. La prochaine fois, je ferai juste en sorte d'avoir quelque chose à boire au stand, quand je suis au stand. Voilà. Bah, c'est Max, hein. Bah, il a de l'humour hein, quand même, il est vraiment bon.
Bah, oui, il a de l'humour.
Arnaud, scandale, pas scandale, comment t'as interprété ça? C'est vrai que Jean-Luc disait, faut pas se référer à Austin la semaine dernière. Moi, la première chose devant ma télé, c'est de me dire pourquoi Norris il prend 5 secondes à Austin et pourquoi Verstappen il prend 2 fois 10 là, alors qu'on a l'impression que c'est pas les mêmes situations copier-coller, mais on a quand même l'impression qu'il y a des similitudes entre les trois manœuvres, là, celle de la semaine dernière et les deux d'hier.
À la différence près que Norris était beaucoup plus intelligent en rendant la position hein, sur ce virage 4, parce qu'il faut se rappeler qu'à Austin, là il fait une erreur, parce que s'il rend la position à Austin, il aurait encore tout loisir derrière pour dépasser Max Verstappen et il l'aurait dépassé. C'est pas illogique. Je trouve peut-être un chouïa sévère parce que, et Jean-Luc l'a dit, la manœuvre au virage 8, elle est quand même très dangereuse, elle est violente. Ça pose aussi, et on en revient souvent à la question, macadam ou gravier quand t'es hors piste. Mais franchement, ce qu'il fait là sur ce virage 8, où il passe pas à fond, mais il passe quand même assez vite, hein, peut-être à 220-230 km/h, pas loin, je pense, sur ce virage à gauche. Là, je trouve ça totalement dangereux. Donc, qu'ils prennent les 10 secondes là. Sur avant, alors c'est, j'ai pas envie d'être dans le camp de Christian Horner, mais il est arrivé avec des données télémétriques pour expliquer que sur ce virage 4, Lando Norris est arrivé 14 km/h plus vite que lors de son meilleur tour en course. Alors il s'est justifié comme ça servira strictement à rien. Je dirais que c'est sur la première pénalité, c'est viril et presque incorrect. Alors après qu'ils prennent les 10 secondes, bon, ce qui perd tout le monde, c'est qu'en fait, on voit plein de situations, et c'est un peu comme l'arbitrage de foot en Ligue 1. Il y a des sanctions différentes à chaque fois. Donc, ce qui perd évidemment tout le monde, les pilotes, les managers, le spectateur et tout. Voilà, même si c'est vrai que Jean-Luc a raison, on doit différencier les différentes courses. D'ailleurs, pas tous les commissaires. C'était Johnny Herbert, l'un des commissaires à Mexico hier, pour l'ensemble de son œuvre. Et d'ailleurs, je terminerai en résumant la radio de George Russell quand on lui a dit, Verstappen a pris 20 secondes de pénalité, il a dit, je crois, pour la première fois en 3 ans, bravo.
Ouais, c'est ça. Mais Louis, en fait, moi, j'ai l'impression que tout le monde a un avis différent. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde a un peu raison. C'est ça qui est. Moi, j'entendais hier le consultant Canal+, Romain Grosjean, qui lui, sur le coup de l'action, prenait plutôt la défense de Verstappen et comprenait pas
sur l'extérieur
de 10 secondes, voilà, qu'il avait du mal à comprendre la décision de la FIA parce qu'il disait que la semaine précédente c'était un peu la même chose. En fait, on a du mal à vraiment avoir une visibilité claire sur ce qui s'est passé et à se faire une idée tranchée. Sur ces 20 secondes de pénalité.
Exactement, et ce qui illustre parfaitement ça, c'est justement Romain Grosjean, parce qu'à la fin, si tu regardes leur documentaire débrief, enfin pas leur émission débrief jusqu'à la fin, Grosjean à la fin reprend la parole pour dire « Alors, j'ai revu les images, et en fait, vous avez plutôt raison et tout. » Donc lui-même change d'avis, en fait, selon l'angle, selon l'angle qu'il a vu ou pas. Donc ça montre bien toujours quand même la complexité de...
Surtout que Romain Grosjean était un peu habitué des dépassements, des manœuvres
Il était habitué.
C'est un euphémisme.
Ouais. La première, je pense clairement qu'il prend, il prend 10 secondes, comme le disait Arnaud, pour l'ensemble de son œuvre. Et la deuxième, je suis presque à me dire, s'il n'y a pas la première, sur la deuxième, il prend drive-thru, je pense. Parce que vraiment, quand même, là, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous avais dit, ouais, pour moi, ce que je trouve pas cool, c'est que, si tu freines pas, tu seras toujours premier à la corde. Voilà, c'est vraiment ce qu'il a fait, virage 8, quoi. Il a dit, allez, on s'en fout. Très, le F1 sur PlayStation 4, tu vois, genre le gars qui t'a doublé en ligne et ça t'a saoulé et tu te dis, allez, tant pis, je fous ma partie. Je le cartonne, quoi. Ça faisait un peu ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'est pas normal à ce niveau-là sur, et à n'importe quel niveau d'ailleurs, quand tu fais, quand t'es dans le monde réel, tu peux pas te comporter comme ça. Donc une appréciation unique pour chacun, différente pour chacun. Mais pour le coup, je pense que ça fait du bien qu'il en ait pris une. Ça montrera aussi aux frustrés qu'il n'y a pas non plus de complot ou quoi. Et puis peut-être que ça.
Mais la FIA quand même.
Légèrement, même s'il a dit l'inverse.
La FIA frappe un grand coup, les gars, quand même. Parce que c'était pas facile de prendre cette décision-là sur Max Verstappen, champion du monde. Ça veut dire que même lui, quand même, il peut pas tout se permettre aussi. Enfin, la décision, elle est forte à 4 courses de la fin.
Bah ouais, mais moi, je pense vraiment qu'il y a l'ensemble de son œuvre, quoi. C'est que, pour le coup, il a été protégé, je sais pas, mais on va dire que. Ça tombe, comme on le disait, la pièce tombait souvent de son côté parce qu'il savait, il avait une bonne maîtrise de la zone grise et de faire les choses jusqu'à la limite. Or là, clairement, on a vu qu'il l'avait dépassé. Donc ça veut peut-être dire aussi, à la différence d'avant, que Lando entre un petit peu dans sa tête. Légèrement, sûrement, mais parce que vraiment, hier, il y a eu un dépassement de limite qu'il n'avait jamais vraiment fait, quoi. Tu vois, on disait avant, il fait toujours un truc limite, mais ça passe. Là, le virage 8, c'est tout sauf ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc de bourrin, sans limite, justement. Donc moi, je me dis, c'est peut-être la preuve que Norris est peut-être entré un peu dans la tête de Max.
Et la clé, c'est vraiment Norris qui rend la position après être sorti large au virage 4. Oui, parce
lui,
que justement,
à l'inverse,
très
serein sur la situation.
Ça inverse le rapport de force. Et même pour les commissaires, en se disant, l'autre, il a rendu la place. Ça prouve, c'est pas je suis innocent, mais ça prouve, regardez, c'est lui et c'est pas moi.
Ouais, clairement. Clairement. Moi, je voulais quand même, mais ça, je vais me tourner vers Jean-Luc, parce que j'ai l'impression, Jean-Luc, que sur cette fin de saison, à chaque fois qu'il y a un dépassement, là maintenant, tout est sujet à enquête, à des séquences vidéo qu'on va disséquer. Et t'as l'impression que les bagarres sur la piste, c'est plus prioritaire. Enfin, que les mecs, ils peuvent plus vraiment combattre. Et moi, je suis resté sur ma faim hier, sur ce Grand Prix du Mexique, parce que j'aurais aimé qu'ils se chafouinent encore un peu plus longtemps, quoi. J'aurais aimé voir la réaction de Verstappen après, je sais pas, passer 20 secondes de pénalité. J'aurais aimé voir si Norris était capable de tenir face à lui. Sauf que là, en fait, ils nous ont un peu tué le Grand Prix encore avec ses pénalités.
Bah oui, ce que tu dis est logique, évidemment. Et on aime tous le sport en piste et pas beaucoup les débats sur tapis vert.
Mais est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas trop, justement? Est-ce qu'il n'y a pas trop de débats là sur cette fin de saison?
Si, mais je te dirais que c'est relativement inévitable. Là aussi, hein, on peut reprendre toutes les fins de saison très disputées entre deux pilotes avec un fort caractère et on arrive à ce résultat-là. Donc malheureusement, effectivement, certains circuits maintenant, bah, c'est un peu, tu disais, les circuits vidéo, c'est-à-dire qu'on peut sortir à 250 et il se passe rien, il n'y a pas de sanction et le problème, il est là. Moi, je suis pour le retour, effectivement, de zones de bac à sable ou au moins d'endroits où les pilotes perdraient du temps. Dès que tu sors de la piste, logiquement, tu perds du temps. C'est la logique absolue. Enfin, je veux dire, c'est ça la course automobile. Donc, c'est ça qu'il faudrait rétablir sans altérer naturellement la sécurité. Alors, on en met beaucoup sur le dos des pilotes de Grand Prix moto en disant quand il y a des Grand Prix moto disputés sur les mêmes circuits que la F1, c'est à cause de la sécurité de la moto. C'est totalement faux. Parce que je connais très très bien la moto aussi, je suis l'intégralité du championnat du monde et depuis très longtemps. Non, non, on attribue toujours, moi j'ai entendu à une époque, sur les Grands Prix moto, on attribuait les règles à la Formule 1. Bon, ça c'est une manière de se défausser. Simplement, il faut rétablir des limites au circuit, ça me paraît tout à fait normal. Il faut faire en sorte que les gens qui sortent de la piste perdent du temps et ils sortiront plus de la piste, c'est aussi bête à dire. Et dans ce cas-là, on n'aura pas d'intervention des commissaires pour essayer de rétablir la vérité sur la piste.
Voilà. Même à Mario Kart, quand tu sors de la piste, tu vas moins vite. Hein. C'est vrai.
Bah, oui.
C'est vrai. Non, totalement. Mais... Bon, après, tu remontes très vite à Mario Kart. Aussi. Tu peux remonter très vite,
ça dépend. Mais tu peux avoir une pénalité.
C'est le problème, si tu veux, c'est d'entretenir cette ambiguïté. Voilà.
Ouais.
Après, bon, ma fin de course, elle a été un peu... Elle a été, moi, elle est restée sur ma fin, c'est parce que je m'attendais à une bataille Norris Leclerc. Et bah Charles, il a parti en survirage. Mais bon, même il allait se faire manger, je te vois, vous, Louis, mais.
Non, ouais, je me repense à l'image, quoi. Le coup de raquette, tu te dis, ah bah c'est le mur direct. Il a
récupéré miraculeusement.
Ouais.
Je voulais quand même vous entendre, les gars, Arnaud, sur la course de Verstappen. Parce que bon, ok, il y a ces 20 secondes de pénalité. Mais le gars, bah déjà, Jean-Luc l'a dit. Au final, face à la presse, même dans la voiture, bah, il se plaint pas. Donc ça veut dire qu'il accepte le truc. Et puis derrière, il remonte quand même, alors que t'es peut-être à un vrai tournant du championnat. Il arrive à aller chercher la sixième place avec une voiture. Bah, je vais pas dire que c'était un fer à repasser la Red Bull ce week-end, mais ils ont quand même eu des galères du début à la fin à Mexico. Et il arrive quand même à sauver les apparences et aller chercher 8 points. Moi, je le trouve, mais vraiment, mais alors, on le sait hein, qu'il est très fort. Mais peut-être encore plus fort que ces dernières années dans cette adversité-là.
Oui, bon, après, les 20 secondes, elles sont quand même que pour lui. Hein. C'est-à-dire que s'il bêtise, il est pas loin, il est sûrement pas loin du podium. Hein. Je pense qu'il passe devant les
Mercedes. Oui, mais tu peux t'effondrer. Tu peux aussi avoir un vrai coup de pression, te dire, là, mince, je suis en train de perdre le championnat. Le gars, ça fait...
Il a fait la marche, quoi. Tu vois. Et bon, ses qualités mentales et de pilote, on les souligne pratiquement toutes les semaines. Parce qu'on sait que c'est un pilote extraordinaire et que malgré cette voiture qui... Et là, peut-être que c'est là où tu voulais en venir. Je pense que la frustration qu'il a par rapport au matériel et la voiture qu'il a entre les mains, bah, l'oblige à être encore plus limite. Parce qu'il sait que
surjoue.
Si je me fais passer,
il surpilote. Il est un peu surpilote.
Totalement. Et je pense que ça va le faire pour le championnat du monde. Je vois pas la hiérarchie bouger. Tu vois, on restera sur Verstappen, sur Norris en 2 et Leclerc en 3. Je pense qu'à 4 Grands Prix de la fin, alors après on n'est jamais à l'abri de coups de théâtre et heureusement, mais je pense qu'on se dirige quand même vers ça. Moi je voudrais qu'on dise aussi un mot de la course de Sergio Pérez qui était exceptionnelle. Hein. Entre le départ où il n'est pas dans les clous et dans ses marques, et puis le doigt d'honneur de Liam Lawson, hein. Ça c'était fantastique.
Ça j'ai même pas vu.
Non, on l'a vu après, ouais. Oui. Moi je l'ai vu sur les réseaux en fait. C'est d'ailleurs notre pote Alex Caldi qui a tweeté, mais il est complètement fou, il veut sortir du Mexique vivant. Liam Lawson.
Et en plus, chez Red Bull, parce que.
Ouais. Et puis dans la maison, tu te dis.
Excusez, hein.
Ouais, bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal.
Après, ça vaut pas. Tu t'en souviens, Jean-Luc, de Frenzen sur Blundell en 95? Oui. Alors celui-là était quand même, il était encore plus beau. Hein. Avec la caméra juste devant.
Là, je vais dire la phrase de petit con de j'étais trop jeune.
C'est vrai que Sergio Pérez quand même qui rate son départ parce qu'il est 33 cm ou je sais pas 30 cm pas dans sa marque et qui tient à son ingénieur. Les gars, checkez parce que je crois que je suis bien là, franchement. Il y a un petit problème de vue, Sergio.
Il y avait une demi-bagnole. Il dit non, je suis bon.
On est juste à 292 000 départs, mais.
Ah ouais. Ah, mais là, ça montre, si tu veux, pour pas trop se moquer, ça montre que le gars, il a lâché. En fait, tu vois qu'il y a un truc qu'à lâcher. Parce que, comme on le dit, il a une carrière, il a des grands prix. On l'a vu dans plusieurs grands prix, on va dire technique et compliqué, faire des courses abouties, des week-ends aboutis. Donc quand tu vois qu'un gars arrive chez lui un peu sur le dernier espoir, parce que son baquet est presque perdu, il est chez lui pour le dernier espoir, et comme tu dis, dès la Q1 c'est cataclysmique. Derrière, il veut tellement gagner un peu de temps au départ, il met sa bagnole à moitié devant. Derrière, il fait un super départ, il commence pas trop mal, et puis derrière il s'accroche avec Liam Lawson. Quand tu revois le truc, bon, c'est, tu peux dire tort partagé, mais tu te dis Checo, t'aurais pu l'éviter aussi. Enfin bref, tu sens qu'il a lâché clairement. Tu le vois aussi dans un regard après un moment là. Il y a une image de lui où il a les yeux vraiment, mais du chien battu quoi. Il fait de la peine quoi.
Et là, on a passé le Mexique. Attention, parce que là j'ai vu des propos de Christian Horner où. Tu sais que le Mexique, c'était important d'avoir Pérez quand même chez toi. Là, pour le titre constructeur, c'est compliqué. Je regardais, c'est 9 millions de dollars la différence de dotation entre la première, la deuxième et la troisième. Donc au total, 18 millions si t'es troisième au lieu de premier, ce qui est quand même énorme. J'allais dire, ça fait presque le salaire de ton deuxième pilote, largement. Ouais. Et là, une fois ce Grand Prix du Mexique passé, est-ce que chez Red Bull, on va pas se dire, bon, écoute,
Horner
Coco.
C'est qui appelle Nico là, t'entends?
Oui, c'est, ouais. Non, alors, c'est pas moi. Je pense que c'est Horner qui appelle Jean-Luc.
Ah, c'est vrai.
Parce qu'il a bien plus de contacts que moi et j'ai pas cette sonnerie de téléphone. Jean-Luc, non, mais par contre, Pérez, là, c'est fini là. En fait, là, l'histoire, elle peut pas.
Non, je crois que c'est là, c'est clair. De toute façon, les multiples déclarations laissent à penser depuis déjà pas mal de temps qu'il était en sursis. Alors, finira-t-il la saison ou pas? Parce que la vraie décision, elle est là. Hein. De toute façon, malgré le contrat qu'il a signé pour 2025, je ne le vois pas l'honorer. On a mis le loup dans la bergerie en la personne de Liam Lawson. Même si là, bon, l'accrochage entre les deux est presque symbolique, tu vois, parce que il en a fait, ils en ont fait un peu. C'est un incident de course pour moi entre les deux. Bon, on peut, là aussi, on peut discuter à l'infini.
Oui, je pense que c'est ça, c'est un incident de course. Mais après, quand t'es Pérez et que t'es en pleine remontée, tu peux te dire le tour d'après, ça aurait pas été non plus une bêtise.
Bien sûr, mais t'as raison. Et puis c'est lui qui a le plus de métier, c'est lui qui est le taulier, c'est lui qui est dans la Red Bull. Bon, là, c'est un peu grotesque. En plus, c'est symbolique. Hein. Il se qualifie avant dernier, il termine dernier. Bon, je crois que c'est bâché, quoi. Ouais. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on va le remplacer tout de suite avant même le Brésil, ou peut-être pour les trois derniers Grands Prix, enfin j'en sais rien.
Et puis sur cette question, il y en a un qui vit un week-end vraiment hyper mauvais, cataclysmique, c'est Yuki Tsunoda. En début de week-end, on a Horner qui annonce qu'il va donc être dans la Red Bull pour les tests à Abu Dhabi. Et à partir du moment où l'annonce est tombée, ça a été un enfer à base d'accidents, de mauvaises courses, et tout ça pour finir. Il finit très tôt dans le mur. Premier tour, non?
C'est quand même là aussi lui qui fait l'erreur hein, au départ.
Oui.
Il essaie de se glisser dans un trou de souris et ça passe pas.
Autant il a été victime un peu de malchance, autant là-dessus c'est clairement lui, et je pense qu'entre le il y a un peu de pression aussi, peut-être tout simplement. Quand faut être là, il y en a s'il craque, et peut-être qu'il en fait partie.
Il n'est pas très fort psychologiquement. Puis regarde, quand il sort dans la Q3, il hypothèque la performance
en plus,
de Lawson.
Ouais, évidemment. Ah ouais. Ouais. Non, vraiment, week-end cauchemar pour Yuki, alors que vendredi, il devait être au top, et dimanche, ça va tellement vite, la F1. Ça va tellement vite.
Il n'y a quand même plus marqué de points, Yuki Tsunoda, je regarde, depuis la Hongrie.
Ah oui, ça remonte. Oui. Ouais.
3 abandons et 4 fois 0.
Ouais. C'est clair que là, c'est pas la dynamique.
Ils auraient peut-être dû garder Ricardo, en fait.
On va quand même écouter Lando Norris, qui est un des grands gagnants du week-end. Alors, même si, 47 points de retard encore en championnat, c'est énorme à 4 courses de la fin. Mais en tout cas, il reprend des points. On va l'écouter. Jean-Luc, juste après, je te fais réagir sur son week-end. Est-ce que tu as pensé de sa course?
Were you surprised about the 20 seconds penalty for Max?
Est-ce que vous avez été surpris par la pénalité de Verstappen?
Pace was very, very strong.
Non, pas du tout.
The first stint is always difficult to do a lot.
Le premier relais a été vraiment difficile pour nous, ça a été difficile de dépasser. Tout le monde est sur les mêmes pneus.
The first stint was
Donc le premier stint a vraiment été difficile. L'écart avec Carlos était déjà énorme, il y avait 15 secondes. J'ai oublié Carlos et je me suis concentré sur Charles parce que Charles il a jamais été si loin que ça. Dommage parce que notre rythme n'était pas si bon aujourd'hui. Et je suis resté dans la course. J'aurais pu facilement terminer dans le mur. Voilà, quand même, à la fin, il revient un petit peu à tout ça. Et fait passer un petit message à Max Verstappen. Jean-Luc, le week-end de Norris, bah, il est là encore, hein, il lâche pas, hein, mine de rien.
Écoute, c'est la seule solution pour lui. Hein. S'il veut remonter sur l'ogre Verstappen, il faut rien laisser passer. Alors en qualif, effectivement, il est un poil en dedans quand même. Hein. Là, pour le coup, autant il avait mené les qualifs jusque-là absolument fantastiques, on l'a souligné, 4 pôles en 5 derniers Grands Prix et 5 en 7 derniers. Bah là, il est un peu en dedans. Bon, il n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait. Puis le reste suit. Tu sais, en Formule 1, maintenant, malgré tout, c'est souvent comme ça. Il se retrouve donc dans cette lutte avec Verstappen. Comme il dit, je m'attendais à quelque chose comme ça. Bah oui, on sait bien que l'autre, il tente tout. Et puis, je vais être très cru, ce que je crois on n'a pas dit encore jusque-là. Si jamais ils restent tous les deux sur le carreau, bah c'est avantage Verstappen. Parce que celui qui a intérêt à rattraper son retard, c'est évidemment Lando Norris. Et ça, tu ne peux pas l'empêcher. Dans tous les cas de figure, quand au départ de la course, tu as 57 points d'avance sur ton adversaire, tu sais très bien que si tu l'envoies dans le mur ou si les deux s'accrochent, bah c'est à ton bénéfice. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et donc, Norris doit le savoir. Je l'aime bien, ce gars-là, mais je me demande s'il est, je dis toujours la même chose, s'il est assez sharp, assez teigneux, assez agressif. Parce qu'un titre de champion du monde, il faut aller le chercher. Hein. Et face à un monstre comme Verstappen, bah, il fait un bon week-end, voilà, Norris. Parce qu'au final, si tu veux, il prend 18 points. Il en reprend donc 10 à Verstappen. Et il faut commencer à considérer Leclerc. Il en prend 2 à Leclerc. Donc, c'est globalement un bon week-end. Est-ce que c'est assez? Je suis pas sûr.
Pour être champion du monde, parce que je vous écoutais ces dernières semaines, et je vais le dire avec des mots moins crus, mais il faut être une véritable tête de mule pour être champion du monde de F1. Je pense à un autre mot qui se finit en « ar », parce que ça fait partie de cette panoplie-là. Et c'est vrai que Lando Norris, on peut se poser un petit peu des questions, mais je trouve qu'il était très intelligent. Et surtout, sans son coéquipier qui était aux fraises, il a fait un peu une course à la Verstappen. C'est-à-dire que je suis tout seul, j'ai pas un coéquipier pour m'aider au niveau de la stratégie. Et franchement, terminé deuxième, super course, très solide.
Ouais, alors, t'en veux des coéquipiers comme Oscar Piastri, je sais pas s'il t'aide beaucoup.
Le fait en d'être fait, là...
Moi, c'est à la place de Norris, je le préfère loin vois. Derrière, Oscar. Allez, reste là-bas derrière, laisse-moi tranquille.
Pour être un peu sur ce que disait Arnaud, à la fin de la course, Norris, il dit il fallait que je survive à ce Grand Prix-là. Quoi, il fallait que je finisse. Donc tu vois, il était vraiment un peu dans une course à la Verstappen. Je vais pas vous reposer une question sur le titre de champion du monde parce qu'au final ça change pas vraiment le rapport de force. On peut se dire quand même que Verstappen va pas prendre 20 secondes à toutes les courses et que reprendre que 10 points à Verstappen, c'était peut-être l'occasion où
puis
jamais
là, on arrive
là,
au Brésil, hein. Brésil,
il va
Red
peut-être
Bull,
prendre un moteur, hein, vous l'avez vu,
oui.
Verstappen.
Oui,
ouais. Voilà, c'est
oui.
Ça. Quoi.
C'est 5 places.
Alors, t'as raison, il va peut-être changer de moteur là, et du coup, il va peut-être prendre des places de pénalité.
Il vaut mieux changer à Interlagos qu'à Las Vegas, je pense.
Ouais,
clairement.
Ah, oui, c'est clair.
Interlagos, il va faire pole, derrière du coup il sera 5 ou 6 et en 6-7 tours il sera revenu avec chaque ligne droite.
Ça serait bien qu'il gagne parce que ça remonte. Hein.
Mais, non, mais c'est un très bon circuit pour Red Bull donc ça peut être une bonne chose pour eux.
Et je sais plus de mémoire, il reste en sprint. Il y a pas le Brésil justement, il y a Las Vegas.
Ouais,
avec
et
un sprint.
Et une deuxième, mais
Qatar.
Qatar.
Et Qatar. Parce que bon, Max Verstappen, c'est seule victoire depuis l'Espagne, c'est du sprint.
Bon, on va parler quand même du vainqueur, Carlos Sainz, les gars, et de Ferrari plus globalement. Jean-Luc, Sainz qui a fait un super week-end, notamment une séance de qualif où il a fait un tour, mais supersonique. Quatrième victoire pour lui. C'est vrai que nous, on en parle souvent hors antenne. Fait que il n'ait pas été conservé, qu'Hamilton va débarquer face à Leclerc la saison prochaine. On se dit quand même que qui méritait pas ça, l'ami Carlos, Jean-Luc, parce qu'il est bon, franchement.
Bah, complètement d'accord. Écoute, sincèrement, je le suggère depuis le début de la saison. Bah, maintenant, je vais vous le dire. Pour moi, c'est une ânerie. Voilà, je le dis sur tous les tons. Parce qu'on ne peut rien lui reprocher à Carlos, mais vraiment rien. Il est toujours là et il a un bon esprit. Tous les ingénieurs te disent que c'est un super metteur au point. Il s'entend vachement bien avec Charles Leclerc, même si parfois il se tire la bourre, mais ça laisse jamais de traces. C'est vraiment sportif. Il a un super bon état d'esprit. Et puis, il a démontré là que c'est un sacré bon pilote. Hein. Il fait une pole formidable. Il remporte la course, il le mérite. Il va contribuer, mais grandement, au titre constructeur s'il y arrive. Mais je veux dire, il a quand même 240 points. Hein, là aussi, 291 pour Charles. Non, c'est une paire formidable. Pourquoi le remplacer par Hamilton? C'est vraiment, à part le showbiz, j'y vais crûment. Hein, je sais que je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est une erreur coupable et qu'il fallait conserver, évidemment, Sainz. Et je pense que s'il décroche le titre constructeur chez Ferrari, ils lui devront également une très belle chandelle. Bon, écoute, c'est comme ça. Maintenant, c'est fait. Je suis pas certain que Fred Vasseur soit totalement ravi de le perdre en fin de saison et de récupérer Hamilton. Mais on en reparlera, évidemment, la saison prochaine.
On posera la question. Il faudra qu'on lui pose la question à Fred Vasseur, parce qu'on va bien évidemment l'inviter dans le paddock RMC. Hein.
Bah, il attend que ça, il paraît là. Il...
Bien sûr, il écoute tous les épisodes. Bien évidemment, c'est ce qu'il fait à chaque fois après un week-end de course.
J'ai beaucoup de respect pour Fred, mais je suis pas certain qu'il puisse nous dire quoi que ce soit là-dessus.
Après, c'est vrai que Sainz, des fois, tu vois là, c'est Norris qui était invité avec toute la famille Sainz et tout. Des fois, je me dis, est-ce qu'il avait vraiment fait le deuil de ces années McLaren? T'as l'impression qu'il y a une espèce de nostalgie souvent, parce qu'on voit tous les liens qu'il a gardé un petit peu avec Lando Norris. Là, t'as Zak Brown qui est venu photobomber la photo de Ferrari et de ses équipes où il posait avec le trophée et tout le monde. Et des fois, j'ai l'impression que je ressens une forme de nostalgie de Sainz de ces années McLaren.
C'est l'équipe de sa résurrection, ça qui peut l'expliquer. Hein. C'était un début de carrière compliqué, de baquet en baquet. Il arrive dans un Mercedes qui était une McLaren qui n'était pas en forme, loin de là. Donc ils ont vécu ensemble un truc fort, je pense, unique, où tu remontes, où tu arrives à faire des podiums. Il est passé tout proche de la victoire. On s'en rappelle bien, une des premières fois, c'était face à Pierre
à Monza.
Norris n'en avait pas arraché à l'époque non plus. Enfin bref, c'était la remontée de McLaren et lui vraiment le début, on va dire, le début de sa carrière où les gens commençaient à le regarder en disant oh là, attends, Carlos Sainz en fait c'est solide, c'est très solide. Parce que c'est toujours à double tranchant quand t'es le fils d'eux. C'est-à-dire que t'as des portes qui s'ouvrent parce que, mais t'as aussi des préjugés qui restent parce que t'es fils d'eux quoi. Donc je pense qu'il a mis du temps, mais qu'aujourd'hui il a son propre nom dans le sport auto en plus de celui de son père.
Clairement.
Donc ça c'est quand même déjà un...
Oui, puis c'est pas dans la même discipline quand même hein, aussi.
Bien sûr. Et puis le père a été champion du monde, lui non. Enfin voilà, on peut continuer. Mais quand même, c'est une fin de carrière. Si tu te remets il y a quelques années quand il se fait débarquer de chez Renault et tu dis alors Sainz, je te dis, dans quelques années, il a 4 victoires, il sera passé chez Ferrari et tout. J'aurais pas cru une seconde.
Ouais. Les gars, globalement, le week-end de Ferrari, alors on le disait dans le warm-up RMC, notamment Louis. Toi, tu voyais Ferrari très performant ce week-end. Ça a été le cas.
Avec Julien, il y avait Julien et on était Ferrari, mais on était plus Leclerc, tu vois, pour être honnête.
Oui, clairement.
Je pourrais m'envoyer des fleurs en disant oui, j'avais tout vu et tout, mais c'est pas le cas encore une fois.
en tout cas, la perf collective de Ferrari, elle est impressionnante. Ils prennent 41 points sur ce week-end. McLaren en prend 22, Mercedes en prend 22, derrière Red Bull en prend 8, autant que Haas. Là, au classement des constructeurs, ce qui est en train de mettre en place, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça bosse bien chez Ferrari, mais là, c'est en train de se matérialiser par la prise de points et une prise importante de points, Jean-Luc. Hein. Vraiment, ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont aller chercher McLaren?
Écoute, moi je pense que oui, là aussi, on va pas jouer au jeu de je vous l'avais dit avant, mais depuis le précédent Grand Prix, hein, c'est évident, depuis les États-Unis où ça a été absolument éclatant. Là, ils font une très solide performance, même si Charles est pas très bien. On a compris pourquoi. Il s'est plaint un peu de la voiture. Il n'arrivait pas à l'exploiter comme il fallait. Il n'avait pas le rendement
habituel. Problème d'hydratation aussi. Hein. Il avait des gorgées d'eau qui lui arrivaient dans les virages. Il s'est plaint très rapidement, ce qui n'est pas très agréable quand même.
Hein. Oui, c'est mieux que dans les yeux, tu me diras. Mais...
Oui.
Non, mais en tout cas, ils font une belle performance d'ensemble. Ils sont là. Une nouvelle fois, ils sont solides tous les deux. Et on vient de parler des autres équipes où malheureusement il y a toujours une petite faille. Et là, bizarrement, ça a été aussi Piastri qui n'était pas au niveau. Mais bon, les deux sont là. Ils vont l'être, je pense, jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison, si la voiture le permet. Non, moi j'en fais même quasiment maintenant mes favoris et titres constructeurs. Alors bon, pilote, c'était pour rigoler en disant que Charles pouvait éventuellement jouer dans le camp. C'est trop loin. Mais constructeur, c'est tout à fait jouable et je pense qu'ils vont le faire.
29 points de retard pour Ferrari sur McLaren.
Ouais, mais la voiture en ce moment, elle est bonne partout. Ils vont n'importe où, rapide, sinueux, lent, virage rapide, elle est bonne. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant dans une compétition où justement les voitures sont souvent bonnes de manière pas aléatoire, mais presque. C'est vrai que ces derniers temps, il y a quelques mois, on se faisait la remarque que les ingénieurs, les teams principaux venaient dire pas. Bah, j'ai aucune idée de ce que va donner la voiture dans un quart d'heure. Donc c'est vrai que dans une époque pareille, d'avoir une voiture comme ça qui d'un coup est solide vraiment partout, et deux pilotes solides, parce que la différence qu'avait Ferrari ce week-end avec ces deux concurrents, c'est qu'ils étaient à deux devant. Et ils étaient à deux la semaine dernière. Donc, s'ils continuent comme ça, ouais, moi, je commencerai bien à prendre le parti de Jean-Luc, même si j'avais dit McLaren. Et ça va être chaud quand même. Mais ça va être cool.
C'est ça l'intérêt. C'est qu'il y a une grosse incertitude quand même.
Ça fait du bien d'avoir une saison, une fin de saison avec du suspense quand même. Hein.
Ouais, on attaque le mois de novembre, clair. On ne sait pas où on va, c'est cool.
Ouais. Ça, c'est clair. Belle perf des Mercedes aussi, Arnaud. Hamilton 4e, Russell 5e, Russell qui a eu des petits soucis sur sa voiture. Mais deux Mercedes au 4e et 5e rang, ça valide quand même les belles performances du week-end. Surtout quand tu vois que McLaren ou que Red Bull met qu'un seul pilote dans les points, ou un Piastri qui est seulement 8e. Voilà, ils arrivent à être solides ensemble.
Oui, mais bon, ils sont tellement derrière que...
C'est anecdotique,
j'ai l'impression
mais bon.
Que oui, c'est bien, mais c'est pas top, c'est sans saveur. C'est le minimum par rapport à la voiture que t'as, mais t'es premier derrière Verstappen. Je mets pas Perez. Les deux Ferrari, et à la rigueur derrière, parce que même si Piastri, bon, il y a ce problème en qualif, mais voilà, ils sont juste à leur place et... J'ai envie de dire, bon, voilà, il y a presque rien à dire en fait, je trouve chez Mercedes. Et tu parlais tout à l'heure des teams principaux qui disaient, je sais pas comment la voiture va fonctionner. Chez Mercedes, ça fait 2 ans qu'ils se disent ça à chaque Grand Prix. Hein.
Mais d'ailleurs, Nico, on voudrait pas directement entendre Toto.
On peut entendre Toto Wolff.
Ah ouais, Toto
Wolff qui va nous débriefer ce Grand Prix. Toto Valadon, vas-y mon Toto.
Oui, Lewis a fait une bonne performance, George aussi, on pouvait pas faire mieux sur ce Grand Prix, mais voilà, il faut continuer encore avec Interlagos qui va arriver, où on espère avoir de meilleures performances, parce que Lewis, il mérite aussi avant de partir.
Bah voilà, bravo.
Bravo. Si vous nous écoutez, vous savez qu'on met des petits teasings sur les réseaux sociaux. Mais direct, celle-là, ça sort direct sur les réseaux, ça.
Là, j'étais dans le garage Merco, là.
Et si vous êtes sage, vous aurez Gunther Steiner dans pas longtemps.
Non, Michael, non. J'ai aussi le nom Michael, non. On l'a sans faire.
On aura Gunther Steiner pour nous dire au revoir tout à l'heure.
Et tu disais Fred Vasseur qui ne va pas nous répondre, mais si Toto Wolff et Gunther Steiner te répondent. Hein.
Alors déjà, on a fait plus d'invités que sur toute la saison, c'est énorme.
Tous les grands de la F1 sont dans le paddock.
Jean-Luc, As, 7e, 9e, encore une fois, franchement, parmi les équipes de la deuxième partie de tableau, ils font quand même une sacrée fin de saison. Je suis en train de regarder là, l'ami Hülkenberg, il a pris des points lors des 3 derniers Grands Prix, Singapour, USA, Mexique, Magnussen là, qui rentre dans les points. Franchement, il y a vraiment une dynamique positive autour de cette équipe là.
Bah écoute, il leur manque Gunther Steiner pour continuer à gagner. Oui. Hein. Non, sérieusement, là je crois que effectivement ça fait plaisir parce que on rappelle que c'est quand même une petite équipe avec des moyens extrêmement limités. J'ai pas toujours été un grand fan de Kevin Magnussen parce que je trouvais qu'effectivement le garçon, alors là c'est pas agressif, il était vraiment trop teigneux. Là il fait une course magnifique. D'ailleurs Hülkenberg lui a rendu hommage également. C'est super, ils sont tous les deux dans les points, puis c'est constant. Hein. Ça fait 5 grands prix si je ne m'abuse qui marquent des points au championnat. championnat. Au championnat constructeur, il commence à être tout seul aussi, isolé maintenant. C'est pas mal du tout. Et si ça continue, ils vont rattraper Aston Martin. C'est le meilleur hommage à leur rendre.
Il y a 40 points.
Non, alors bon, c'est vrai que c'est quand même énorme parce qu'à ce niveau-là, quand on en prend 7 ou 8 par week-end, ça va être compliqué. Mais c'est du très beau boulot. Et je crois que ce qui a été mis en place par le nouveau patron est vraiment performant et ça fait plaisir, quoi. Alors, on sait que, a priori, Magnussen ne sera plus là, évidemment, la saison prochaine. Je ne vois pas trop où il pourrait aller, là.
Ça, c'est sûr. Le petit point pour Alpine.
Ah. Hein,
Louis, bah, il fait plaisir quand même, celui-là.
Bah,
Pierre Gasly. Non, mais pour le coup, ça fait deux grands prix qu'Alpine se qualifie bien. En tout cas, que Gasly arrive à hisser sa voiture en Q3. C'est pas rien. Et puis là, il a réussi à sauver un point en course. Donc, bon, de là à parler de progrès, j'en sais rien, mais...
Y a quand même clairement un progrès, parce qu'il y a un moment, quand tu touches le fond, comme dit l'autre, tu peux plus creuser.
Là, c'est pas ridicule.
Donc, tu peux remonter. Donc, quand même, il y a eu un nouveau... Enfin, je sais pas si c'est un package complet ou c'est plusieurs évolutions, mais il y a eu du changement.
Pour Pierre,
en deux temps. Pierre. Alors, apparemment, Esteban l'a reçu ce week-end, de ce que j'ai compris, quand même. Peut-être pas complètement, peut-être pas clairement, parce que dans les perfs, ça s'est pas vu chez lui. Et on sait que c'est deux pilotes talentueux et au talent similaire. Donc, s'il va moins vite, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a pas, et dans l'autre sens, c'est pareil. Donc, mais après, bon, on avait oublié, en fait, que Pierre, en qualif, quand la voiture marche, il est toujours là. Ça me rappelle l'époque AlphaTauri où il pouvait pas faire mieux que sixième, mais il l'avait fait 5 ou 6 fois dans l'année, alors qu'il avait une voiture plutôt 8, 9, 10 que 6. Donc ça, super. Et enfin une course bon an mal an, plutôt pas mal exécutée. On est encore sur un pit stop moyen, mais bon, par rapport à celui catastrophique de la semaine dernière, c'est mieux. Et puis derrière, un pilotage propre, mais bon, les As sont passés devant à la régulière, parce que de toute façon, aujourd'hui, elles sont devant. Donc, t'es à ta place, ouais, et encore, parce que t'as
3 points de Williams. T'as 3 points de Williams,
exactement. Ouais, 3 points de Williams.
Ça serait bien pour le moral.
Ils n'ont pas été servis, parce que Albon, évidemment, s'est retrouvé.
Ouais. Alors, Albon, on pourra en parler quand même. Hein. On commence à être sur une belle période très moyenne de la part d'Albon. Hein. Albon, qu'on a beaucoup encensé. Alors, peut-être qu'il vit aussi la fatigue, on va dire, normale d'être dans une écurie où tu peux pas faire grand chose. Il y a un moment, peut-être que tu t'épuises, t'as plus le mordant. Mais clairement, l'arrivée de Colea Pinto lui a pas fait du bien à son image, puisqu'on a clairement vu que, il délivrait pas non plus énormément plus qu'un rookie. Moi, je pense que le talent, il l'a. Hein. Je pense plus que c'est dans la tête, que tu vois, enfin, ce que avait super bien fait George Russell, qui avait bouffé du Williams, qui avançait pas pendant 3 saisons, mais qui avait le mordant à chaque week-end, quoi. Et donc Albon, s'il veut espérer un autre baquet un jour, va falloir se reprendre, parce que ça fait quelques mois, je trouve que ça vaut pas
3 grands prix,
ouais.
Sincèrement.
Oh, au moins, non,
il avait été bien en Azerbaïdjan.
Ouais,
il y a une stat qui est folle pour Albon. Ouais. On était sur le 20e grand prix de la saison et au final, il n'a marqué des points que lors de 4 grands prix. Ça, c'est quand même très peu. Tu vois, tu prends un Pierre Gasly, t'es quand même à 4, 5, 6. Rien que ça.
Ouais.
Et il a quand même du mal à scorer. Et imagine Colea Pinto, alors ça va être compliqué de marquer plus de points quand même qu'Albon, mais ça serait un peu fâcheux même.
Ah là, ouais, là,
sur la deuxième partie de saison, depuis que Colea Pinto est là. Là, Albon a pris 8 points et Colea Pinto 5 points. Donc, il est arrivé, ça fait 5 grands prix. Imagine, t'as égalité ou il est juste devant. C'est dur. Hein.
Ouais, là, ça craindrait fort. Là. Ouais.
Non, il est un peu déstabilisé, c'est ce que vous avez dit. C'est clair que l'arrivée de l'Argentin, ça l'a pas sécurisé.
Qu'est-ce qu'on retient d'autre sur ce grand prix, les gars?
Un mot quand même si c'est un 400e, moins 3, plus 2, moins 12, d'Alonso, quand même.
Ouais,
quand
ouais. Même. Qui a abandonné au 15e tour, problème mécanique, ouais. Jean-Luc. Mais 400 grands prix, c'est. On en parlait dans le warm-up avant le Mexique.
Insensé.
En fait, mais moi, par exemple, je vais avoir 34 ans. En fait, j'avais 10 ans quand il a commencé, quoi. Alonso, moi, on a vécu avec ce gars-là, on a grandi avec ce gars-là. Quoi.
Bah oui, même pas, je crois. 2001, il a commencé.
2001, mars
ouais,
2001.
C'est ça, 2001.
Mars 2001.
Ah ouais. Non, mais écoute, c'est un monument. Ça, lui, il le disait lui-même, il ne se voyait pas aller aussi loin. Puis qui peut imaginer une telle carrière? C'est vrai que c'est favorisé, entre guillemets, par le fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 grands prix par saison. Hein. C'est quand même énorme. C'est monstrueux, même. Et puis, bah, c'est sa constance. Surtout qu'il est parti voir ailleurs. Il en avait marre de la F1. Parti faire de l'endurance. Il a gagné Le Mans. Il a roulé à Indy. Il a été roulé au Dakar. Non, bah, c'est un type extrêmement attachant. Alors, je sais, il fait partie des meubles maintenant. Mais moi, je lui souhaite que grâce à Newey ou pas, j'en sais rien, mais il retrouve une voiture qui lui permette au moins de remonter sur des podiums. Vraiment, il le mérite dans tous les sens du terme.
Bon bah merci beaucoup les gars pour clore ce podcast. Gunther Steiner est venu nous rendre visite. Gunther Maladon.
Hi Gunther.
Sur hello guys, how are you? I'm very happy to be in the. Non, je l'ai pas. No, this is a fucking show for RMC. You know, this is a very obviously a good podcast to hear.
Excellent. Franchement, alors, j'espère que tu reviendras plus longtemps.
Non mais t'es pas mal sur tes analyses F1, mais c'est rien que pour les imitations qu'on te prend en fait. Et de très très loin, mais tu vas nous bosser ça sur la fin de saison.
Et surtout Gunther, tu vas nous expliquer pourquoi les As marchent cette année et elles marchaient pas l'an dernier. Ça m'intéresse beaucoup.
Because we have put some four wheels on the car, so it's better to race.
Ah bah voilà, exceptionnel. Fallait nous le dire.
Exceptionnel. Bah merci Gunther, on se retrouve au prochain Grand Prix. Merci les gars, je vous rappelle guys, warm-up.
Tu bosses Brillator
avant
pour la semaine prochaine.
Bien sûr, bah tu
vois, avec Jean-Luc.
Alors là, il y a pas
on va lui donner des challenges
là. C'est fan, tu sais bien.
On va lui donner des challenges sur le groupe WhatsApp là, ouais, du paddock RMC. Il va nous en bosser 2-3 à chaque Grand Prix, à chaque débrief. Ça va être exceptionnel.
À bientôt pour le
merci
Open.
Beaucoup, ciao. Les gars. Je vous rappelle le warm-up. Le warm-up d'avant Grand Prix du Brésil. Ça sera mercredi ou jeudi en fonction des dispos, du casting, des préparations d'imitation d'Arnaud Valadon. On vous remercie en tout cas parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça, c'est quand même très cool parce qu'on va pouvoir continuer à vous faire des contenus F1. Préparer aussi la saison 2025. Donc surtout, n'hésitez pas, des petites notes sur les plateformes de téléchargement, c'est super important pour nous, des commentaires.
Et on embrasse Jibouille qui nous a donné de la force.
Et oui, Jibouille qui nous a laissé un petit message sur Twitter en disant qu'il avait adoré le format du warm-up. Donc ça, c'est très cool. Et on vous lit à chaque fois que vous nous envoyez des messages, franchement, hein, on se les relaie au sein de notre groupe WhatsApp, on vous lit. Donc si vous avez des souhaits, des fois, des idées d'invités, n'hésitez pas, on essaiera de tout faire pour vous faire plaisir. Ciao les gars, on se retrouve
salut
très vite
tous.
Dans 2-3 jours, ciao. Grand Prix du Brésil la semaine prochaine. Ciao.
Bonne semaine, ciao.
Le paddock RMC.